livre, on va prendre quelques minutes pour reprendre un petit peu notre énergie, on va se lever, se détendre. Donc, nous allons pouvoir fermer cette séance et en rouvrir une nouvelle qui sera consacrée à des questions-réponses. Nous allons maintenant passer à la séance de débat, de questions-réponses sur ces services d'annuaire de données d'enregistrement. Et je vois que l'on fait tous du yoga dans la salle, on se détend, on s'étire pour retrouver un petit peu d'énergie. Nous allons commencer dans 2 minutes.
Okay, guys, if you could take your seats, please, we'll start.
Nous allons reprendre notre travail. Donc, tout le monde, veuillez, s'il vous plaît, reprendre place. Nous allons commencer notre séance de travail, qui sera une discussion très bien. Très bien. S'il vous plaît, reprenez place. Nous allons commencer notre travail très rapidement. Vous allez avoir la possibilité de poser des questions. Alors, merci beaucoup véritablement de votre attention. Merci d'être resté attentif et de rester dans cette salle à écouter la présentation, à visionner les transparents. Maintenant, notre intention, c'est de vous permettre de vous exprimer, de poser des questions, comme l'a dit Jean-François. Nous aimerions nous limiter au rapport, à la présentation que vous avez eue. Peut-être que vous avez des questions de process, mais nous sommes toujours avec Stéphanie à travailler au process. Donc, moi, j'aimerais vous donner la perspective du board, parce que, vous le savez, le conseil d'administration de l'ICANN, peut-être que vous étiez avec le GNSO et le board hier, les étapes à venir, quelles sont-elles? On n'est pas pressé. On ne dit pas que ce rapport doit être mis en œuvre. On veut travailler avec le GNSO, nous avons eu ce rapport d'experts, il est long et complexe et nous voulons du retour d'informations là-dessus, un feedback sur ce rapport. Donc il y aura une série de webinaires, de questions-réponses, de séances de questions-réponses. J'aimerais donner des dates limites. Je crois qu'il faut assez de temps quand même pour digérer un petit peu ce rapport. Nous sommes très enthousiastes d'être à Londres. Vous savez, étonnamment, les Européens ne travaillent pas en été. Et donc, on va leur laisser le temps de prendre des vacances. Et nous avons demandé au GNSO de faire du travail pour nous. Ce que je vais leur demander, c'est de nous donner une liste de ce qu'ils voudraient que nous fassions avant de leur donner le PDP. Donc, un exemple simple. Il y a dans le rapport des points juridiques qui posent problème et qui doivent être analysés par des juristes. Donc, je ne sais pas dans quel ordre cela sera fait, mais il y a le travail du conseil d'administration, il y aura le travail du conseil que du GNSO. Donc, on a demandé au conseil de nous donner leur avis sur l'ordre également que nous allons employer pour régler ces problèmes. C'est la première fois que l'on se livre à ce type d'exercice. Donc, le processus est nouveau. Il faut être clair. Le conseil d'administration veut travailler avec le GNSO, avec la collectivité GNSO, pour trouver un processus pour faire avancer les choses. Ceci dit, nous avons des micros dans la salle et nous aimerions vous donner la parole, vous donner la possibilité de vous exprimer. Steve Metallic, j'aimerais tout d'abord remercier le groupe d'experts qui a beaucoup travaillé. Moi, je suis un vétéran, vous le savez, des débats au sein de l'ICANN. Et il me semble que vous avez changé les termes du débat. Vous avez changé véritablement les choses, la façon de voir les choses. Je crois qu'on va travailler de cette manière maintenant avec les problèmes généraux que nous devons régler pour l'Internet. C'est ça ce qui va nous permettre d'avancer, je crois, à l'ICANN. Je suis très impressionné par votre travail. Parce qu'à un certain moment, à l'ICANN, le débat n'était plus du tout productif. Donc je parle au nom des intérêts pour des droits d'auteur, l'accès donc à cet annuaire de données d'enregistrement, problème de propriété intellectuelle, de droits de propriété intellectuelle. Donc nous allons étudier à fond le rapport, nous allons nous pencher sur ce rapport, nous allons l'analyser. Et je crois qu'on peut trouver sûrement des côtés positifs et négatifs dans ce rapport, pour notre perspective. Mais j'aimerais poser une question sur ces diverses perspectives. Je ne sais pas exactement comment ce rapport sera perçu, sera accueilli. En ce qui concerne les autorités de protection des données, un aspect négatif du système actuel est que la protection des données, les autorités de protection des données, rendent illégales dans certains pays. Je dirais, ça fait 15 ans que je vous disais que je suis ici, et je crois que on n'a pas beaucoup d'autorité dans ce domaine. Donc c'est très significatif pour moi. C'est un problème qui se pose. Ce qui va influencer les résultats généraux, est-ce que les autorités de protection des données qui se plaignaient du WHO is actuel vont penser que ce nouveau système leur conviendrait mieux, les satisferait mieux? Ça, c'est une grande question. Si c'est le cas, eh bien ça, c'est fantastique. Et on avance dans la bonne direction. Donc je ne sais pas si vous en avez parlé dans vos délibérations, mais j'ai vu un petit peu de couverture médiatique à ce sujet par rapport à votre travail. Comment est-ce que cela va affecter les médias, la presse? Actuellement, chaque jour, au quotidien, je vois des journalistes qui utilisent les données WHOIS. Que ça soit un petit peu bizarre, un petit peu sinistre, très souvent, on sait qui a enregistré un nom de domaine, on sait qui est derrière un nom de domaine, on a l'accès, les journalistes ont l'accès à ces données Whois très facilement, le public également. Donc, si on change de système dans votre sens, les journalistes n'auront plus accès à ces données d'enregistrement. Il y a une question de liberté de la presse, liberté d'expression, liberté et droit d'accès à l'information qui se pose. Donc, ça, il va falloir y réfléchir de plus près et voir quels sont un petit peu les droits des journalistes, ce que pensent les médias de cette nouvelle approche possible. J'aimerais demander à Michele de répondre à cela. Oui, j'aime toujours répondre à Steve. Vous savez, en ce qui concerne l'aspect confidentialité des données, je suis très conscient de ce qui se passe avec le nouveau Whois. Vous savez, j'ai eu des débats très difficiles parfois avec l'ICANN. L'article 29, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. J'ai exprimé véritablement un désaccord avec le statu quo actuel, avec le système actuel, et je ne sais pas si ce que nous proposons va satisfaire tout le monde, satisfaire la presse ou les médias, je ne dois pas répondre à leur place, mais je pense que nous avons trouvé un système, un nouveau système. Il y avait un concept qui était que toutes les données soient disponibles pour tout le monde à tout moment, dans le Whois. Prenons par exemple .eu. Vous avez la possibilité avec le port 43 d'obtenir tous les noms de domaines, tous les bureaux d'enregistrement. Vous avez un système qui peut être protégé. S'il y a des sites web, l'entrée peut être un petit peu plus protégée. Il faut le faire en Europe parce que il y a des règles et des lois en Europe qui sont beaucoup plus contraignantes que les lois dans d'autres pays pour la protection de l'information et pour la protection de la vie privée. Donc, moi, je pense que votre question était tout à fait intéressante, dit le modérateur Chris Despain. Donc, d'autres questions? Moi, j'ai bien compris ce que vous avez dit. Oui, merci beaucoup. Je voulais répondre à la question des médias. Pour la recherche, Carlton Samuels au micro, pour la recherche, pour les enquêtes journalistiques, nous reconnaissons cela, c'est permissible, c'est là, justifiable. Donc je ne vous dis pas qu'on a répondu à tous les cas de figure, il y en aura d'autres qui vont survenir, mais le droit à la recherche, oui. Alors, oui, je ne sais pas si les médias auraient toujours cette possibilité, dit Steve Metalix. Je m'appelle Alex Deacon et j'aimerais vous remercier de votre travail qui a été vraiment très important et qui est très apprécié. Moi, j'ai une question peut-être plus simple, technique néanmoins. Il y avait un transparent où on posait la question. Est-ce que cela répond aux besoins? Ou sinon, est-ce que le système Whois doit être conservé? Je ne sais plus exactement comment vous avez dit ça, quel terme vous avez employé, mais en tout cas, qui va répondre à ces questions? Comment cette question va être posée et comment allons-nous y répondre? Parce que je crois que c'est en effet une question essentielle pour l'avenir. Ça, c'est à la communauté ICANN de répondre à cela, me semble-t-il, dit Chris Despain, modérateur du conseil d'administration. Donc ça ne va pas être le GNSO, ça ne va pas être ce groupe de travail. Oui, c'est toute la communauté. Oui. Donc ça sera vous tous qui allez devoir vous engager. Et si l'on retient cela, vous en serez responsable. Oui, j'aimerais féliciter ce groupe de travail tout à fait remarquable. J'ai eu les privilèges de suivre vos résultats. Et ce que je voudrais demander comme question, c'est l'audit pour s'assurer qu'on a un système valide et fiable. Quelles mesures d'audit vous avez insérées dans le système? Est-ce que l'audit est interne ou est-ce qu'il est externe? Les audits, oui. Qui s'occupe de la question des audits? Oui, attendez, c'est mon sous-groupe, je crois, donc je vais essayer de vous répondre. Vous verrez dans le document qu'il y a toute une section sur les principes d'audit et les systèmes de saisie. Je crois que c'est un critère absolument essentiel qu'il y ait des archives sur les transactions effectuées. Qui demande, par exemple, les renseignements pour avoir le droit de savoir qui demande au sujet de l'ordonnée? Qui pose des questions au sujet de l'ordonnée? C'est beaucoup plus détaillé dans le rapport, mais il y a des paragraphes qui sont consacrés à cela. Oui, oui, je parle en mon nom personnel, je pose une question. Oui, je crois que il y a quelques minutes, on a parlé des étapes à suivre au Conseil GNSO, mais je m'exprime en mon nom personnel, je m'appelle James Bledel. On va voir un PDP, les résultats d'un PDP. Ma question au groupe de travail, c'est quelles seraient pour vous les recettes pour les étapes à venir? Donc, vous êtes là quand on a commencé, parce qu'on a parlé un petit peu des questions juridiques que vous aviez posées au GNSO. Donc, ouais, ok, pas de problème. Donc, oui, James Bladel au micro. Selon vous, comment va-t-on avancer en passant par quelques étapes? Moi, je suis là pour collaborer avec vous. Je ne suis pas là pour vous jeter des pierres, mais nous avons passé beaucoup de temps avec ces recommandations déjà au GNSO. Je sais que Suzanne, nous étions à l'AOC, nous étions à l'équipe d'analyse également. Et donc, on a fait référence, Steve Cocker en a parlé ce matin d'ailleurs en séance plénière. Ces recommandations, vous voyez comment que ça va bien se passer, quel va être le rapport peut-être avec le GNSO. Oui, j'aimerais répondre à la deuxième question. Je crois que notre expérience, Suzanne Kawaguchi au micro, je crois que on a créé cette équipe pour certaines raisons et nous avons essayé de voir où il y avait des problèmes, où est-ce qu'on devait s'arrêter parce que notre mandat se terminait là et qu'on ne voulait pas empiéter sur le travail des autres groupes qui constituent l'ICANN. Nous faisions partie d'une équipe, nous avions certains paramètres de débat et de discussion, nous avions des questions de mandat. Nous avons quand même parlé de beaucoup, beaucoup de choses. Personnellement, l'expérience de l'analyse du WHOIS m'a permis de voir très large et je crois d'être plus créatif dans ma réflexion. Mais moi, James Bledel, mais les recommandations, il y a quand même une question fondamentale. L'intervenant n'utilise pas de microphone dans la salle. Oui. Oui, vous voulez plus de détails, c'est ça que vous voulez dire? Oui. Oui, on va demander donc une réponse de Denise de Margin. Oui, c'est Margin Milam du staff de l'ICANN. Margin Milam, donc. Nous avons une approche un petit peu parallèle. Nous avons continué à travailler aux améliorations du WHOIS et nous avons travaillé lors d'une séance hier avec le GAC. Je pourrais vous donner un lien hypertexte à ce sujet. Donc, pour le moment, on travaille à l'amélioration possible du système WHOIS. J'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière, dit Chris Despain. Le conseil d'administration a approuvé ce groupe de travail sur le WHOIS. je crois qu'on est sur la bonne voie. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons reçu un rapport du Conseil consultatif sur la sécurité et la stabilité qui a parlé en termes très forts d'un besoin de repartir à zéro et de repenser totalement le modèle. C'est pour cela que l'on a décidé de créer ce groupe de travail. Donc, ces deux choses sont séparées. Là, c'est une approche où l'on repart à zéro. Vous avez d'un autre côté le GNSO, mais vous savez que ça va être complexe, que ça va prendre du temps, qu'il va y avoir une phase de mise en œuvre, et notre intention n'est pas de complètement arrêter le WHOIS. Non, on va continuer à améliorer le WHOIS qui existe toujours, qui est toujours présent. Mais pourquoi le conseil d'administration a décidé d'avoir ce groupe d'experts indépendants? Eh bien, parce que tout le monde pensait, y compris au GNSO, avec les PDP qui existaient, on savait très bien qu'à un moment ou un autre, ça n'allait plus fonctionner, qu'on devait penser à une nouvelle approche repartant de zéro pour fournir justement au GNSO des limites pour se préparer à créer un développement de politique, un PDP, un processus de développement de politique. Donc, ce sont des limites dans lesquelles on a travaillé. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un nouvel exercice. C'est tout à fait nouveau, ce que nous faisons aujourd'hui. C'est pour cela que l'on a travaillé ensemble pour définir les prochaines étapes. Parce que, vous pouvez nous dire, utilisez cette méthodologie ou utilisez-en une autre. Donc, la prochaine question.
Bonjour, Paul Keating. Je suis avocat et je représente beaucoup de fournisseurs de services Internet de tiers. Et j'ai une question par rapport au nom de domaine et aux données WHOIS. Pour servir aux demandes des clients. Et j'essaie de voir où interviendraient ici les clients. Il y a des fournisseurs commerciaux, par exemple, avec des outils de domaine qui fournissent toute une série d'informations historiques liées à cela. Et c'est peut-être la seule partie qui conserve ces données historiques. Donc, j'essaie de voir comment mes clients peuvent s'intégrer dans cette proposition. Il semblerait que cette proposition provienne de deux points de référence différents. L'une concernant la protection des données et l'autre, une tentative de centraliser WHOIS qui est actuellement décentralisée. Donc, ma première question par rapport à la confidentialité des données n'est pas tout à fait traitée par rapport à l'intérêt des utilisateurs. Donc, déterminer la confidentialité qu'ils veulent atteindre, si vous enregistrez des informations et vous décidez d'une exclusion volontaire, alors ça sera permanent. Vous ne pouvez pas, après quelques jours, décider que vous ne voulez plus que vos données existent. Deuxièmement, je ne vois pas d'espace dans votre mécanisme d'autorisation pour intégrer ou répondre aux besoins des entités commerciales de tiers. Je n'en vois pas. Les données des opérateurs de registre, il y a énormément d'opérateurs de registre qui ne gèrent pas leurs propres données. Donc, j'aimerais que les membres du panel répondent à cette question en particulier afin de ne pas détruire un membre significatif de cette communauté et qui a participé activement aux activités ici depuis ces 30 dernières années. Oui, ça fait maintenant un an et demi qu'on travaille là-dessus. Je sais qu'il y a eu des projets de rédaction qui parlaient de ce type de service. Donc je pense qu'il faut le voir d'après le point de vue suivant. On ne l'a pas exclu, mais on n'a pas fait un lien explicite avec cela. On a essayé de prendre en considération tous les buts, mais on ne les a peut-être pas tous pris en considération, comme vous venez de le dire. Donc, ça, jugulé au fait que il y a une déclaration explicite qui dit que ce système devrait améliorer le système Huize, je pense que je réponds ainsi à votre question. Et dans le rapport, on n'a pas fait le lien explicite entre le système devrait être créé de cette manière et nous avons répondu à tous les buts. Donc je me réjouis que vous ayez posé la question maintenant. La personne dans la salle, Paul Keating au micro. Oui, merci. Mais qu'en est-il de la protection des marques des clients d'outils de domaine, par exemple. Chris Dispan au micro. Alors, Rod veut répondre, donc laissons-le répondre. Rod au micro, oui, le principe 30 y répond, en fait, hein, à cela. C'est un gros document, très volumineux, mais on le voit comme une opportunité pour que les services de parties tiers puissent interagir avec le fait que le système avance. Il est important de se rendre compte qu'il faut avoir des buts permissibles pour avoir accès à ces informations, à condition que ces parties tiers puissent interagir dans ce cadre. Alors, ils peuvent le faire. C'est la manière dont nous avons conçu ce document, permettre cela, tout en reconnaissant qu'il faut encore que vous fournissiez le même type de protection en passant par l'intermédiaire de services de tiers. Oui, question dans la salle, mais concernant la protection des droits de confidentialité du titulaire du nom de domaine, qu'en est-il? Rod au micro. Oui, on l'a fait. Chris Dispain au micro. Oui, on l'a fait, mais pas de la manière dont vous l'avez dit. Question suivante. Bonjour, Chris Parsons au micro. J'ai trois types de questions. Questions significatives. Première. Première, par rapport à la protection individuelle. Je crois que pour que les personnes individuelles identifiées comme dangereuses, qu'elles soient authentifiées, c'est une bonne chose. Toutefois, comment faire en sorte que les journalistes qui n'ont plus d'accréditation auprès de leur journal se connectent, voyagent et se rendent compte quand ils voyagent ou sont détenus qu'ils sont une personne d'intérêt. Nous autres êtres humains, à titre individuel, n'avons pas la capacité d'affirmer que ce qu'ils disent va être protégé. Donc, Chris au micro, pourquoi avez-vous besoin d'un nom de domaine? Oui, j'ai compris que vous aviez fini votre question. Est-ce que vous voulez enregistrer un nom de domaine pour dire ce que vous dites? Moi, je dis que je ne sais pas. Si je suis étudiant universitaire, est-ce que si je dois me rendre à Myanmar, au Myanmar, est-ce que je savais 10 ans à l'avance que j'allais voyager au Myanmar? Donc il y a des personnes dangereuses. Et comment identifier cet individu? Or, ils ne peuvent pas savoir à l'avance qu'il fallait se protéger de ces personnes. Chris Despain, alors quelle est votre solution? Oui, moi, la question que je pose, est-ce que vous avez envisagé ce genre de cas? Carlston. Oui, on peut anticiper dans la mesure du possible. Mais le plus important, c'est d'être protégé, d'où l'importance des identifiants protégés. Mais si vous n'êtes pas protégé, vous changez d'idée, vous y revenez, alors vous allez y revenir encore et encore. Il n'y a pas d'autre manière de procéder. Soit vous anticipez cela, et si vous le faites, alors il y a une manière de le faire. Si vous n'anticipez pas, alors, à un moment ou à un autre, si vous vous rendez compte que vous en avez besoin, vous revenez en arrière. Et pourquoi ne pas l'avoir fait par défaut, demande la personne dans la salle, Carlton Samuels. Il y a probablement un million d'autres raisons pour cela. Question suivante. Responsabilité, accès et effort pour identifier qui a accès aux archives. Ça, c'est très positif, mais ça s'éloigne énormément de ce qui a été débattu lors de la séance de LDA. Donc, Interpol agira comme un service d'enregistrement fiduciaire dans ce cas-là. Donc, je me demande comment le système va faire face à cela. Chris Despain au micro, je ne sais pas qui peut répondre à cela. Rod au micro. Les demandes seront traité par l'opérateur et les demandes seront transférées par l'intermédiaire d'Interpol ou de quelqu'un de ce genre qui sera responsable de voir qui utilise les données. S'il y a un abus qui est détecté au niveau du RDS, il peut cet abus peut être traité. Donc l'idée, c'est qu'il y a une manière pour que ces personnes fassent appel à des services d'enregistrement fiduciaire, mais de toute façon, il existe toujours une manière de retrouver ces gens. La personne dans la salle n'utilise pas le micro, je ne peux pas l'entendre. Rod au micro, oui, les données. On a eu accès aux données, mais étant donné la sensibilité des données, peut-être qu'on ne saura pas exactement quand. Mais cette information doit être suivie et avec le temps, elle devra être diffusée à un moment ou à un autre. C'est une question de temps. Mais nous avons élaboré un cadre pour le faire. Mais il y a encore beaucoup d'aspects politiques qui restent à définir pour voir comment cela va marcher. Mais tout ça, c'est possible dans les délais qu'on a fixés. Chris au micro, oui. Il est important d'établir un équilibre entre tout cela. Donc, on a essayé d'établir un niveau de principe. Et ce qu'il est important de savoir, c'est qu'il faut mettre en place un processus de développement des politiques. Donc, il y a un niveau de principe. Et si on est trop ferme, on va nous accuser d'être de faire des principes trop contraignants. Stéphanie Perrin, au micro. Oui, je voulais répondre à cela. J'aimerais répondre par rapport au Canada que vous connaissez bien, Chris. Il y a une section dans la législation sur la protection des données personnelles par rapport à la section 9. Le groupe des libertés civiles a l'intention de se tourner vers la Cour suprême et il s'agit de savoir quels sont vos droits. Oui, pour la personne au Canada et pour le registre au Canada. Oui, personne dans la salle. Oui, j'aimerais connaître le point de vue de Stéphanie. Au Canada, il y a une décision de la Cour suprême qui a reconnu le droit de base à l'anonymat et a établi un seuil très élevé afin d'avoir accès aux données. Donc, par rapport à cette décision de la Cour suprême, alors est-ce que Interpol sera à même ou sera responsable de l'évaluation des normes juridiques du pays. Alors, Chris au micro, laissez-moi vous répondre. Comme avocat, il faut être très prudent. J'aurais tendance à vous répondre oui en fonction de la législation actuelle. Mais si c'est défini dans le système juridique en place dans le pays, c'est le cas. Stéphanie? Stéphanie Perrin au micro. Oui, Chris, comme vous le savez, notre gouvernement a choisi de ne pas amender la législation qui est actuellement présentée, la législation à laquelle la Cour suprême répondait était la charte. Donc, nous allons devoir faire à partir de ce qui existe. Et c'est le genre de choses qui s'est produit déjà avec la Convention de Budapest et tous les instruments qui en sont découlés. Bonjour, je suis Robin Gross au micro et j'aimerais savoir quelles sont les opinions divergentes à propos de ce rapport qui n'a pas encore été diffusé. J'aimerais savoir si ces opinions divergentes vont être publiées. Stéphanie est l'auteur de ce rapport divergent. Peut-être pourrait-elle nous dire ce qui vous a amené à rédiger ce rapport. Quelles étaient vos préoccupations? Chris, au micro, oui, pas de problème pour que vous répondiez, mais j'aimerais rappeler que vous continuez d'y travailler, on continue de l'élaborer. Il y a une autre séance jeudi matin. Stéphanie au micro. Il y a un certain nombre de choses qui me posaient problème. D'abord, le facteur de participation, la clause de consentement, je ne m'en rappelle plus maintenant, mais il y a une condition qui est stipulée là, que pour les individus d'être d'accord pour que leurs données de contact soient utilisées. Et d'après moi, on ne peut pas prendre une disposition de la loi de la protection des données et l'appliquer aux autres. Il faut y avoir une option. Et s'il n'y a pas d'option parce que d'autres principes le renforcent, donc soit vous êtes d'accord, soit vous renoncez à cela. Ça, c'est un problème. Et ça, ça m'a amené à me préoccuper un certain nombre de choses par rapport aux données restreintes. Il y a toute une série de questions liées aux données. Le fait que vous consentez à toutes les buts permissibles. On a parlé des buts permissibles, comment vous êtes autorisé à les utiliser, etc. À quel point votre accréditation est transmissible, etc. Tout cela, c'est lié à la mise en œuvre de la protection des données. Donc, ça pose beaucoup de questions, tout cela. Et troisièmement, on vous a beaucoup parlé de ce qu'il y a derrière cet accès restreint et devant cet accès restreint. Et d'après moi, la rédaction de ce rapport est encore confuse. Et si moi, je me sens encore confuse et en toute modestie, je ne crois pas être stupide. Si moi, je ne comprends pas, il y a de grandes chances pour que les autres ne comprennent pas. Et ça, c'est mon point de vue et je m'y tiens. J'aimerais que cette rédaction soit modifiée pour qu'elle soit plus claire. Pour que le public ne se sente pas restreint dans l'accès à ce rapport. Chris au micro. Oui, effectivement. Il serait juste de dire qu'il y a une différence entre le fait de dire que quelque chose n'est pas clair et à l'issue de résultats que vous pourriez faire, on pourrait procéder à certains changements. On en a parlé. Et il est également juste de dire qu'il n'y a eu aucun problème par rapport au fait que vous n'étiez pas d'accord. Par rapport, surtout, par rapport à cet aspect du consentement. Et nous comprenons votre point de vue là-dessus. Quelqu'un souhaitait-il intervenir? Oui, Jean-François au micro. On en a parlé hier au sein du groupe de travail d'experts et je pense qu'on est très proche de procéder à un changement. Nous sommes pleinement, nous sommes tout à fait heureux s'il y a des divergences. Nous sommes en train de les promouvoir parce qu'on ne peut pas dire que ce rapport va répondre aux attentes de tout le monde. Et on l'a dit hier, nous espérons pouvoir diffuser ce rapport aussi vite que possible. Et Stéphanie va pouvoir poster sur son blog tout ce qui concerne ses opinions divergentes. Tout le monde est très nerveux. Et si quelqu'un en est responsable, c'est moi-même parce que je pensais qu'il n'était pas juste que les gens ne sachent pas la raison d'être de cette divergence. Stéphanie au micro. Oui, je suis désolée parce que on m'a dit avant que je pouvais ne pas être d'accord et le dire et le poster sur mon blog. En fait, donc, je parlais à Michelle O'Connor qui me disait qu'il fallait que j'aie mon nom enregistré. Bon, sachez que maintenant, j'ai mon propre domaine, stéphanieperrin.com, et Michael me montrait comment gérer mon blog. Et en fait, j'adore cela, c'est pas difficile du tout. Donc, je vais poster toutes mes pensées, mes réflexions sur mon blog. Chris au micro. Oui, non, mais il n'y a pas de problème par rapport à ce que tu fais avec ton blog. Le problème, c'est le rapport. C'est pas forcément, ça ne correspond pas forcément à ce que tu vas poster sur ton blog. Dernière question qui s'adresse aux membres du panel dans leur ensemble. Comment déterminer si le but et les acteurs accrédités sont effectivement corrects? Chris, au micro. Vous voulez dire pour qu'ils soient validés et qu'ils aient accès? Alors, ça passe par l'accréditation. C'est par l'accréditation que le demandeur indique son but. Et ce but est validé.
Okay, cool.
Chris au micro. Robin, est-ce que nous avons répondu à votre question? Oui. Question suivante. Cathy. Catherine Kleinman au micro. Chris Despine, oui, allez-y, posez votre question. Donc, Catherine, je crois que vous devriez tous porter un t-shirt qui dise « J'ai survécu à ce groupe de travail d'experts ». C'est un processus très long, merci de votre temps et des efforts consacrés. Donc, poursuivre la question de Robin. Donc, vous accréditez la loi chinoise qui est un membre d'Interpol. Et ensuite, lorsque l'on regarde en dehors de la Chine ce qui se passe, comment vous intégrez cela? Rod, alors la bonne nouvelle, c'est que l'Interpol a déjà un protocole, justement pour ça. Lorsque les Chinois ou les autres demandent à un autre pays auquel ils s'intéressent des informations, et Interpol a la responsabilité de coordonner tout cela pour voir comment ce système est utilisé. Pour en apprendre plus sur les personnes suspectées ou qui présentent un intérêt dans un autre pays. Donc, ce qui sera très intéressant, par exemple, c'est pour tout ce qui concerne la traite de personnes, les problèmes de contenu pédophile, etc. Mais en fait, toutes les personnes qui font ce type de demande courent le risque de perdre l'accès à tout le système d'Interpol. Donc, on le sait, il y a des êtres humains qui sont impliqués là-dedans, mais il y a une raison derrière cela. La personne dans la salle n'a pas de micro. Chris, au micro, oui, ça nous ramène à la question de savoir ce qu'il faut encore faire. Que ce soit dans le processus de développement des politiques lui-même ou avant que le GNSO commence son processus de développement politique. Rod au micro, oui, il y a des systèmes qui existent et des protocoles qui existent pour traiter ce type de questions et qui existent déjà. L'une des choses dont on s'est rendu compte en faisant ce travail, c'est que il existe beaucoup plus de services, de modèles d'accréditation qui existent depuis des années, voire des décennies, et qu'on devrait les utiliser pour inventer ou mettre en place nos nouveaux systèmes. Oui, je voulais ajouter, dit Catherine Kleinman, est-ce que cela devrait être un élément qui inclut de nouvelles données qui sont fournies par un enregistrement de domaine? Non. Mais si une adresse IP peut vous mener à une personne beaucoup plus rapidement que par l'intermédiaire d'un enregistrement fiduciaire. Et si vous savez que vous êtes une personne qui fait des déclarations, vous allez être ciblé. Donc, nous y avons énormément réfléchi, à savoir si ce système est parfait ou pas. Je ne sais pas si des systèmes parfaits existent. Mais la communauté va voir cette contribution dans la structure PDP. Donc, il s'agit de principes de haut niveau qui vont permettre d'orienter la communauté parce que nous avons eu l'occasion d'y réfléchir de manière très approfondie. Mais ensuite, la communauté, vous-même, Catherine, devez vous assurer que la mise en œuvre de ce processus, s'il est accepté, aille dans la direction qui est la plus sûre pour la communauté.
Bon, j'aimerais revenir à ma question de départ. Mais j'ai deux rapports ici dans les mains, le rapport intérimaire, 84 pages, et le rapport final, deux fois plus long. Donc, ça représente beaucoup, beaucoup de documentation et beaucoup de teneur. Donc, comment on passe d'une ébauche à un rapport final? Comment on double le nombre de rapports? Donc, cela a trait au contact, notamment, permettez-moi de regarder un petit peu, les contacts obligatoires, les contacts optionnels. Nous avons parlé à Singapour de l'aspect optionnel, de l'exclusion volontaire, de ce concept. On a parlé de personnes peut-être victimes d'abus, et ainsi de suite. Donc, on a parlé des contacts techniques également. Mais là, apparemment, c'est un petit peu extrême. Là, il me semble qu'il y a une expansion massive. Mais vous savez, on fait ça en Australie. Donc, à la base, si je suis une petite entreprise... Mais un contact légal, ça veut dire quelque chose. Un contact juridique, on l'utilise aux États-Unis. Ça suppose que vous avez un expert. Et peut-être que cette personne ne sera pas un expert. Oui, je le comprends. Christy Spain, non, mais c'est une obligation publique. Non, mais elle n'est pas... Regardez, c'est sur le document. Oui, écoutez-moi, s'il vous plaît. Donc... Nous savons que c'est public, en effet, ça dépend des juridictions. Le terme « contact légal » a une définition différente par pays. Ce qui compte, c'est que si vous passez dans le système, vous rentrez dans le système, vous avez un problème juridique. On va leur donner le contact juridique. Mon entreprise va pouvoir désigner, si je le désire, mon avocat comme contact juridique. Comme petite entreprise, on le fait lorsque l'on coche des cases. Moi, je vais peut-être me mettre partout comme contact juridique. Et c'est tout à fait possible. Et c'est tout à fait faisable. Vous avez le contact administratif, le contact technique, le contact juridique. Alors, quel est le problème ? C'est un problème que ce soit un contact qu'on appelle juridique ou bien que je dois remplir cette case. Oui, cet exercice est très dangereux. De remplir ces cases, ça pose problème. Regardez ce qui m'inquiète véritablement. Contact sur une base juridique à la page 52 du rapport. Cela, le nom, l'adresse postale, le pays, le numéro de téléphone, tout. Tous sont obligatoires, tous sont publics. Non, dit Chris Dispen, non. Moi, c'est comme ça que je le comprends, c'est comme ça que je le lis. Oui. Je crois que ça fait partie de la confusion que Stéphanie... Oui, vous me permettez de terminer ma phrase, s'il vous plaît? Oui. Si cela est obligatoire et public, cela est un extrêmement grand changement, extrêmement dangereux. Parce qu'il semble que la seule personne qui reste protégés représentent les entreprises ayant des contacts juridiques. C'est tout à fait faux. Et nous sommes très contents que vous posiez cette question, parce que on m'a posé la question très souvent dans les couloirs. Jean-François Baril, au micro. Ce n'est pas parfait, mais ça fait partie de ce que l'on a mentionné avec Stéphanie. Parfois, ça prête à confusion. On va clarifier cela. Permettez-moi de parler en premier, dit Catherine Kleiman. Non, Stéphanie, vous devez poser la question et avoir un but, un objectif. Ça va être basé sur une justification. Ces éléments peuvent devenir publics et divulgués à tout moment. Ils peuvent devenir disponibles à une partie tierce. Suzanne Kawaguchi au micro. Mais il y a également des éléments de données que nous collectons sur une base optionnelle qui seront divulguées uniquement si la personne ayant déposé sa demande de dossier, ayant son nom de domaine, l'accepte. Est-ce que tout est clair? Absolument pas. Est-ce qu'on a essayé de s'assurer, que les personnes soient bien conscientes du fait que ces données seront possiblement divulguées? Donc, c'est ce qui est publiquement divulgué, Chris Despain. Est-ce que vous allez changer cette page 52? Des personnes parlent sans micro. Donc, c'est un processus, c'est une question de processus. Le rapport est publié, on ne va pas se mettre à changer le rapport, il est publié. Pour être très clair, il y a beaucoup de problèmes qui vont se poser. C'est un bon exemple. Comment ça marche? Comment ça fonctionne? Que voulez-vous dire par là? C'est dans le rapport, mais il y a différents principes. Je le comprends tout à fait. Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça va être public ou pas? Moi, il me semble que le processus n'est pas respecté. Nous allons clarifier les choses, dit Rod Rasmussen. Donc, des personnes parlent sans micro. Vous devez bien comprendre, dit Chris Despain, il faut être très clair. Ça, c'est les données publiques, ouvertes, libres, on peut les appeler comme on veut. En dehors de la porte d'accès, de la frontière. Donc, est-ce que c'est obligatoire de fournir ces données? Vous avez utilisé le terme obligatoire. Vous devez, en effet, donner ces éléments. Mais si cette page, je n'ai pas regardé à cette page, si ça vous donne l'impression que votre adresse sera affichée publiquement, la réponse est non. Elle ne sera pas affichée publiquement. Et nous allons nous assurer avec une clarification que vous soyez tout à fait à l'aise avec ce concept. J'apprécierais beaucoup cette clarification. Merci beaucoup. Merci. Wendy Sulzer au micro. Des questions d'ordre très général et d'autres questions plus détaillées. Puisque tout le panel est devant moi, je n'ai pas été encore en mesure de lire tout le rapport, ces 166 pages. Mais la question d'ordre général sera la suivante. Est-ce que le groupe a parlé de ce qu'effectue ce rapport en changeant la nature des propriétaires de noms de domaine? Il y a des critères très forts de responsabilité. Qui est véritablement propriétaire des noms de domaine? on ne peut pas simplement avoir un nom de domaine simplement pour l'objectif d'avoir un emplacement sûr et stable, avoir une signature DNS dans la racine pour des communications sécurisées. Au contraire, il me semble que maintenant, cela ajoute des informations supplémentaires que chaque utilisateur doit fournir comme condition d'obtention d'un nom de domaine. Wendy. Michele Nellone, vous avez déjà enregistré des noms de domaine. Vous êtes sujette à un accord, un contrat d'accréditation de bureau d'enregistrement déjà, n'est-ce pas? Il y a déjà un niveau de responsabilisation. Donc, voilà, ça ne... Non, attendez. Cette responsabilité maintenant est tout aussi claire. Il me semble que ce n'est pas un changement si énorme que cela. Je pense que ça devrait être plus clair, ce niveau de responsabilité. Si j'enregistre un nom de domaine aujourd'hui, et si je suis à l'encontre d'une marque de fabrique, eh bien, là, je peux perdre mon nom de domaine. Si j'enregistre un nom de domaine et je l'utilise simplement pour distribuer des maliciels, eh bien, à quelque niveau que ce soit, je dois être responsabilisé. Non, je ne suggère pas cela, dit Wendy Sulzer. Mais le micro n'est pas ouvert, mais Wendy Sulzer dit que cette responsabilité est à un autre niveau. Oui, j'aimerais ajouter quelque chose par rapport à Michele. Pour ceux qui affichent, en effet, transfèrent, obtiennent des données, je ne crois pas que c'est un changement si important pour l'inscription des noms de domaine. Donc, je sais que lorsque j'enregistre un domaine, j'ai ce contrat d'accréditation et je suis d'accord pour donner des données précises, exactes, et il y a d'autres clauses à respecter. Et ça, à chaque fois que qu'on enregistre depuis 15 ans un nom de domaine, eh bien, on doit respecter ces clauses dans ces contrats. Et parfois, des données fausses sont indiquées, mais on demande à ce que l'on s'engage à donner des données précises. Donc, je ne crois pas que pour la personne enregistrant un nom de domaine, ça va changer beaucoup de choses. Il y a déjà beaucoup d'obligations pour enregistrer un nom de domaine. Oui, vous savez, Wendy, j'aimerais que vous m'expliquiez un petit peu mieux, dit Michele et Nellone. Qu'est-ce qu'il y a de si différent? J'aimerais véritablement mieux vous comprendre. Donc, je suis un petit peu confus à ce sujet. Est-ce que nous avons fait quelque chose qui vous donne l'impression que c'est massif, ce changement, que c'est essentiel? Moi, j'aimerais vraiment le savoir, parce que pour le moment, je ne vous comprends pas bien. Ce que nous avons fait, tout simplement, c'est de souligner les concepts de responsabilité qui existaient déjà. Peut-être qu'on ne les respectait pas. C'est une autre question. Oui, vous avez requis d'autres éléments de données, de validation, pas seulement inscrire des données précises. Et c'est la personne qui est propriétaire du nom de domaine qui doit gérer cela. Donc, c'est un petit peu différent par rapport au problème de marque enregistrée, de marque de fabrique et ainsi de suite. Oui, si vous regardez les données, il n'y a rien de... Pour la pertinence des données, il n'y a rien de supplémentaire. Oui, il y a beaucoup d'options que nous avons mises dans le système. Et en plus, la validation ne change pas véritablement. Wendy Sulzer, si cela change les coûts pour fournir le service, et donc les coûts de service vont changer. Oui, Michele Nellone, oui, je crois que c'est très bien de parler de cela, mais c'est un point très valide que vous soulevez, donc j'aimerais que vous nous donniez des données lorsque l'on travaille au VO du PDP, ce qu'on a essayé d'éviter dans ces 166 pages, sur nos 180 principes. Moi, j'ai passé un an et demi de ma vie dans des avions pour aller à des réunions à ce sujet. On n'a jamais fait de suppositions. Je crois que vous faites des suppositions et que vous n'avez pas de données pour étayer vos suppositions. Oui, Wendy Seltzer. Oui, vous savez, moi j'ai déjà été à beaucoup de forums publics, on a parlé du coût de la validation, et je crois que ce n'est rien de nouveau ce que j'avance. Chris Despain, Michael Nellon, oui, je suis très conscient des coûts d'inscription des noms de domaine, mais en 2013, dans le RA de 2013, il y a des éléments de vérification qui sont nouveaux, et système de validation qui est nouveau, qui n'est pas encore totalement mis en œuvre d'ailleurs. Donc, si tout cela disparaissait dans les contrats, eh bien, je crois que je ne me plaindrais pas de cela. Mais la réalité est que ça existe, c'est dans le contrat RAA 2013, et nous en avons débattu avec diverses entreprises spécialistes du domaine au sujet de la validation, des coûts associés à la validation. Et ce que je pense, c'est que certains des coûts existent déjà dans le système. Certains coûts, c'est les registres, les titulaires de noms de domaine qui prennent en charge ces coûts. Donc oui, en effet, est-ce que ça va me coûter plus d'argent? Je ne pense pas, mais ça dépend du volume dont on parle également. Oui. Donc... Rod Rasmussen, oui, on a parlé d'autres points. Donc, je ne sais pas comment on peut... La validation est parfois gratuite, on ne peut pas faire mieux que ça. Pour les personnes qui valident, ça devrait, en fait, faire baisser les coûts parce que c'est beaucoup plus localisé. Maintenant, je peux utiliser une personne validateur qui parle ma langue... qui est beaucoup plus proche de moi, qui est localisé. Et ça, ça devrait finir par réduire les coûts. Donc, ce que l'on a apporté, c'est plusieurs manières de faire la validation. Donc, je serai bref, dit Wendy Sulzer. Vous parlez d'une politique d'analyse des risques et de respect de la vie privée. Et je serai très heureux de voir cela défectuer. Avant toute cette collecte, cette infrastructure qui soit changée. Oui, le GNSO va nous donner une liste, mettez cela sur la liste et ce sera tout à fait effectué. Et dernièrement, Wendy Sulzer, une question peut-être un petit peu plus technique. Est-ce que un registrant ayant une identification distincte. Oui, est-ce que vous voulez dire, si je choisis de mettre mon nom, est-ce que je vais avoir plusieurs numéros d'identification? Oui, vous pouvez choisir d'avoir plusieurs numéros de contact d'identification, numéros d'identification. Oui, je crois que vous avez le choix. Michael Nelland, je comprends ce que vous voulez dire. Ce qui vous inquiète, c'est vous iriez inverser un petit peu les numéros d'identité. Non, je ne crois pas qu'il y aura de problème à ce niveau. Vous pouvez avoir plusieurs numéros d'identification. Moi, je préférerais avoir peut-être un seul numéro d'identification. Ça serait plus facile parce que je n'ai pas des millions d'employés. Mais vous pouvez aussi tout à fait avoir de multiples numéros d'identification. Oui, je suis satisfaite de cela. Oui, Rob Gardy. Je serais très heureux de lire le blog de Stéphanie. Mais maintenant, vous avez un nom de domaine. Et je sais où vivez. Je suis au courant de tout ce que vous faites. Et je sais que vous avez peut-être acheté une télévision, une grande télévision à Londres. Mais par rapport au rapport final, ce n'est pas toujours très clair ce qui est optionnel et ce qui est obligatoire, ce qui est déclaré, pas déclaré, ce que ça veut dire que public. Donc, est-ce qu'il va y avoir une version finale, beaucoup plus claire, parce que nous devons savoir quelles sont les permissions nécessaires, qu'est-ce qui est public ou pas. Il s'agit là d'un rapport, dit Chris Dispain. Ce ne sont pas des lignes de conduite, ce ne sont pas des politiques. C'est un simple rapport d'un groupe de travail. Nous allons recevoir un retour d'information, du feedback sur ce qui n'est pas clair. Nous allons clarifier les choses. Et nous aurons beaucoup de débats et tout sera réglé. Rob, oui, Michel Hennel au micro. Oui, si c'est une question de chiffrage, de mesures, vous savez déjà ce que nous avons reçu comme feedback. Nous avons publié beaucoup de choses. On nous demandait des détails. C'est pour ça qu'on est arrivé à 166 pages. Ce n'est pas un grand complot pour vous ennuyer, pas du tout. Non. Est-ce que vous voulez plus de chiffres, plus d'instruments de mesure? C'est tout à fait possible. Notre manque de clarté n'est pas intentionnel. C'est peut-être parce que nous avions des cauchemars la nuit à force de travailler à ce rapport. Et on avait parfois du mal à se distancer. Oui, il y avait des commentaires plutôt sur l'utilisation commerciale des données. L'agrégat des données, et ainsi de suite, la décentralisation des données. Et quelles sont les clauses qui existent pour... on a des données personnelles. Est-ce qu'il va y avoir des échanges possibles? Est-ce que ces données seront commerciales, comme sur Facebook? Où vont rester les données? Parce que ces données ont une grande valeur. C'est pour cela qu'on les voit utilisées par des entités commerciales, comme aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait dans cette conception des choses? Oui. Je ne comprends pas votre question, monsieur, dit Chris Dispain. Vous me parlez d'achat de nom de domaine. Et de données, tout est déclaré. Il y a des lois qui gouvernent cela. Non. Vous dites que les données seront vendues. Oui, nous le savons. Est-ce que l'on parle de vendre ces données? Donc, je crois... excusez-moi, Rob. Je crois vous comprendre, Rob Golden. L'accès des parties tierces aux données. C'est ça dont vous parlez, non? Pour des services, soit que c'est ça. Dans les rapports aux consommateurs, aux clients. Non. Mon adresse, moi, mon Tesco veut utiliser mon adresse, mon nom de domaine. Non. Les termes de votre contrat, vous les avez respectés. Oui. Oui, Fabrizio, vous vouliez peut-être rebondir là-dessus parce que vous avez plus d'informations à ce sujet. Non, c'est dans le rapport, hein, au numéro 50, je crois, et Rand Rasmussen au micro. Si vous avez accès aux données de toutes sortes. C'est les mêmes principes qui sont pris en compte, comment ces données sont traitées, avec beaucoup de soin. Il n'y a pas d'accès public. On ne peut pas vous envoyer du spam de cette manière. Donc, on a pensé à cela. Le problème, c'est de faire respecter ces règles éventuelles. C'est ça qui va poser problème. Et ça, ce n'est pas encore fini. La situation actuelle, c'est que il y a des entreprises qui existent parce qu'en effet, ils ont un accès ouvert aux données. Et cela, c'est très gênant. Ce dont on parle, c'est de retourner cela, de renverser ce modèle et de trouver un moyen novateur. On ne l'a pas encore fait. Ce qu'on a dit pour le moment, c'est d'y réfléchir. Il faut que la communauté y réfléchisse. L'utilisation permissible des données. Oui, moi j'aimerais intervenir, Fabrizio Vera, au micro. Réfléchissez à cela. Le rapport est tel, parce que je ne veux pas, personnellement, vous promettre Hamilton, qu'il y a différentes couches systémiques de protection des données et permettre à quelqu'un à l'intérieur du système de faire des copies des données à partir de l'intérieur du système et ainsi de violer les règles. Il faut être très conscient de la protection interne et externe lorsque l'on parle évidemment de données et de contacts justifiés. En effet, nous voulons éviter que des personnes puissent vendre les données personnelles des gens. C'est pour ça que nous sommes très prudents. Nous comprenons bien qu'il y a des services par abonnement pour obtenir des données. On veut s'assurer qu'il y ait une meilleure protection, une meilleure confidentialité des données. Stéphanie Perrin ? Ça fait 20 ans que cela existe. Mais maintenant, nous avons des lois de protection des données. Il faut d'abord avoir les lois et ensuite, on peut faire les paramètres techniques pour justement limiter les problèmes de viol de la confidentialité des données. Et oui, je sais qu'au Canada, nous avons des lois qui régissent justement au Royaume-Uni également. Nous avons de... Oui. Donc, moi, je crois que vous êtes prêt à lancer votre propre blog. Oui, nous avons un écosystème de Stéphanie Perrin avec de nombreux blogs qui seront lancés. Oui. J'espère que nous n'aurons pas de problème. Nous connaissons nos clients. Et pour le moment, nous avons un système qui fonctionne. Et nous savons très bien comment gérer nos données. Et la réponse que j'ai eue des personnes qui enregistrent un nouveau nom de domaine, c'est pourquoi est-ce que, de toute façon, ces données devaient être publiques? C'est la même chose en Australie. Puisque la protection est un service gratuit pour beaucoup de domaines, nous avons eu 3 personnes sur 900 qui ont résilié leur service. Donc je crois que la protection, c'est quelque chose que les clients recherchent et quelque chose que nous offrons et que nous devons offrir. Oui, je suis de Syracuse, Université de Syracuse, je m'appelle Milton Mueller, et j'espère pouvoir poser quelques questions sans être interrompu par le modérateur. Oui, je crois, Chris, que vous deviez vous limiter un petit peu au niveau de l'utilisation de votre micro. Moi, j'ai une question fondamentale à poser. Je n'ai pas une entreprise. Ce qui m'inquiète, c'est ma vie privée et le respect de la confidentialité de mes données. Donc, soit je passe par un registraire qui me donne une certaine protection, ou bien j'utilise un système par procuration, un service d'enregistrement fiduciaire, et il y aura des procédures que devrait prendre la police pour venir me trouver. Donc, comment est-ce que votre système améliore ma vie, pas uniquement les avocats, pour une personne qui dépose, donc qui demande un nom de domaine, qui passe l'intermédiaire des registres? Donc, vous avez mentionné un processus, Milton. Nous vous avons les services d'enregistrement fiduciaire. On essaie d'avoir des contacts. C'est une option que l'on vous donne. Vous pouvez l'utiliser, pas l'utiliser. Demandez que il y a une justification pour l'obtention de vos données personnelles. Vous avez plus d'options, de choix que l'on vous donne. Donc, moi, je travaille avec Time Warner. Nous avions 70 000 noms de domaines. Ça, c'est difficile à gérer. Donc, lorsque je m'enregistre, on me donne des options, des choix. Je n'ai plus à donner mon nom, mon adresse, et ainsi de suite. Donc, on a un aspect technique également. On doit cocher une case sur le contact technique, et ainsi de suite. Et vous obtenez donc un service d'enregistrement fiduciaire, de procuration. Vous ne donnez votre information qu'une fois. Je peux l'emporter avec moi, c'est comme un numéro de téléphone. Je peux la modifier une fois. Et je crois que la vie des personnes, si vous avez que un ou deux noms de domaine, peut-être que j'ai utilisé des services d'enregistrement fiduciaire. Mais là aussi, c'est plus facile parce qu'on coche ces cases, comme on l'a expliqué, pour les contacts techniques. Je choisis ceci, je choisis cela. Et je choisis de donner des données publiques ou de protéger mes données. Je choisis tout cela. Et la seule chose qui est publiée, ce sont des noms en rapport avec mon système de procuration. Donc, je suis beaucoup plus protégé. Donc, ça ne change pas totalement l'écosystème, ça ne change pas le modèle de coût, me semble-t-il, mais ça améliore votre vie. Mais en tant que personne, dit Ross Rasmussen, je ne sais pas peut-être comment désigner quelqu'un. Je ne veux pas désigner quelqu'un d'autre. Donc je ne sais pas si je veux utiliser ce système de services d'enregistrement fiduciaire, de procuration. Peut-être que je vais dire à GoDaddy de se préoccuper de cela et de s'inquiéter de ces questions. Ça sera plus simple. Peut-être que j'ai pas envie de m'engager dans tout cela en tant que personne, en tant qu'individu, ayant qu'un seul nom de domaine. Mais moi, il me semble qu'il y aura beaucoup plus de transparence, dit Fabrizio Vera, avec ce domaine. Bon, évidemment, tout cela n'existe pas encore, ce n'est pas mis en place, mais on veut plus de transparence. Lorsque vous mettez des données, eh bien, je crois qu'avec Scott, nous avons eu une conférence téléphonique où il nous disait que c'était vraiment pénible d'avoir à donner des données pour une personne administrative, pour un technicien, et ainsi de suite. C'était beaucoup plus complexe. Je crois que nous allons simplifier les choses et que nous allons véritablement faire plus pour les personnes. Bon, ça dépend si on a plusieurs domaines. De toute façon, c'est tout ce que je voulais obtenir à ce niveau. Mais j'ai une autre question. Oui, Milton. Par rapport à vos droits individuels. Je crois que ce nouveau système pour la vie privée, pour la confidentialité, est très intéressant. C'est ce système de règles qui existe. Il y a différents niveaux de protection, différents niveaux de confidentialité. Les détails n'existent pas encore. Oui. Oui, toutes les règles, on met toutes les règles du monde dans un moteur, et comment va-t-il fonctionner ce moteur avec toutes ces règles? Non, la mise en œuvre va être complexe, mais à mon avis, le principe de départ est bon. Comme on le sait, on parle beaucoup en Europe de vie privée, de respect de la vie privée, de confidentialité. On ne sait pas encore ce qu'on va nous demander en tant qu'entreprise. Ça va changer dans les années à venir, j'en suis sûr, mais si l'on parle de l'exemple des données publiques, c'est beaucoup moins de données qui sont partagées en dehors de ces portes d'accès. Vous avez beaucoup plus d'informations aujourd'hui avec le système Whois. Donc, il me semble que c'est un progrès net. Vous avez beaucoup d'options qui vous sont offertes avec les différents services de procuration pour les personnes, et ainsi de suite. Vous avez toujours beaucoup d'options.
Stéphanie au micro. Oui, je voulais répondre à Milton. Si votre choix, c'est de déménager de New York, alors vous allez... Vous pouvez participer au groupe de travail sur la politique de confidentialité. La personne dans la salle, pouvez-vous remettre à l'écran la diapo sur les buts? Alors, d'après ce que je comprends de votre processus, quelqu'un est autorisé à faire une recherche sur la base de données et chercher une personne pour un but particulier. Puis ils font une demande et ils disent au domaine quel est ce but. Et ce but est comparé à l'accréditation et ils sont autorisés ou pas à avoir accès aux données. Moi, j'ai l'impression que c'est très facile de mentir. Si je dis que je suis un avocat en marque déposée, c'est le cas, et je cherche le nom de domaine d'une ancienne petite amie. Je suis suffisamment intelligent pour mentir et dire que j'ai tel but alors que j'en ai un autre. Comment faire ? Oui, Faisal au micro. Je vois ce que vous voulez dire. Pour ce qui concerne les outils d'analyse du comportement, etc., pour voir ce que font les gens. Si les gens disent, voilà, j'ai tel but, et en fait, ils font quelque chose de totalement différent. Donc, il y a tout ce contournement. Et dans une certaine mesure, c'est quelque chose que l'on a tenté de prendre en considération et de le traiter. Personne dans la salle. Oui, en termes de mise en œuvre, vous dites que c'est quelque chose que vous aimeriez faire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas y répondre. Donc, en termes politiques, il faudra y prêter une grande attention, c'est ça ? Chris, au micro. Oui, en Australie, nous avons des politiques très spécifiques par rapport à une personne qui demande des informations. Je ne peux pas vous dire si cette personne ment ou pas, mais je peux vous dire qu'on identifie très facilement ce type de comportement. Donc, ce ne serait pas une mauvaise utilisation d'essayer de retrouver votre ancienne petite amie. Mais peut-être qu'une personne qui aurait une autre intention serait plus facile à détecter. Milton au micro. Lanry Ayagi au micro. Oui, en plus, pendant le processus d'audit, on peut voir les conséquences de ces mauvais comportements. Chris au micro. Oui, il y a également la question des services d'enregistrement fiduciaire derrière tout cela. Il faut utiliser les services d'enregistrement fiduciaire également. Rod Rasmussen au micro. Oui, personne ne peut garantir à 100% que ces systèmes vont garantir qu'une personne qui souhaite retrouver son ancienne petite amie ou autre ne va pas pouvoir le faire. Aujourd'hui, elles peuvent le faire. Moi, je peux aller essayer de chercher le nom de domaine de mon ancienne petite amie. On peut essayer de trouver tout ce qu'il y a sur le système. Mais en fin de compte, ce que l'on veut faire, c'est essayer de créer un système où on peut mettre en place des choses pour répondre aux préoccupations des gens et, bien entendu, appliquer des pénalités et des sanctions et prendre des mesures. Oui, Fabricio, micro. Pour résumer un petit peu ce que disait Rod, oui, la réponse à votre question, c'est oui. Y a-t-il une alternative ? Oui, il y a une manière de contourner tout cela. Nous, on part du fait que certaines des entreprises Si elle cherche ces entreprises, le nom de domaine d'une ancienne petite amie, elles vont se rendre compte que cette personne essayait de chercher le nom de domaine de leur ancienne petite amie. Et donc, on part d'un processus de responsabilité. Mais on ne sait pas s'il existe quelque chose. Il n'y a pas de réponse parfaite à cela. La personne dans la salle. Oui, la question c'est que vous créez, il y a pour l'instant un système de surveillance centralisé mondial énorme. Et on ne sait pas si ça vaut le coup ou pas. Chris au micro. Annoncez vos noms s'il vous plaît quand vous intervenez. Fabricio, au micro. On en a énormément parlé de toutes ces questions. Et lorsqu'on nous dit que le modèle agrégé va être beaucoup plus facile à contourner, etc., Yahoo, Microsoft et différentes entreprises ou compagnies qui sont sous le même chapeau ont elles-mêmes des serveurs désagrégés. Donc, il faut mettre en place des règles beaucoup plus strictes en termes de sécurité, de confidentialité et de protection des données. Et donc, il faut revoir tout ce système. Ça a été notre tentative. Peut-être qu'on s'est trompé, mais c'était notre tentative. Carlton au micro. Oui, je voulais dire la chose suivante. Si nous pensons que, à des fins de surveillance, il faut avoir accès à la base de données pour faire cette surveillance, vous avez tort. Ce n'est pas le cas. Vous n'avez pas besoin d'être à l'intérieur pour surveiller. On a tous tendance à oublier qu'il existe une infrastructure pour cette énorme infrastructure partout. Des centaines de millions de dollars qui n'ont pas été investis en vain. Et je ne pense pas que vous allez que les personnes vont rester les bras croisés à regarder cette situation. Question dans la salle. Oui, je suis Kevin MacArthur. Certains des défis qu'on a eus concernent la sécurité de ces informations. Donc, ma question est de savoir quel est le régime juridique qui va s'appliquer. Et si ça ne fonctionne pas, qui va s'en charger? Chris, personne, parce qu'il ne devrait pas le faire. Alors, en fait, c'est le rôle du pays où vous êtes basé. Chris, non, excusez-moi, j'ai mal compris votre question. Où allons-nous l'inclure, c'est ça? La Lune. Chris, au micro, on n'a pas encore fait de recommandations quant à l'endroit. Mais en fait, Jean-François aimerait que ça le gérer depuis sa maison. Rod, au micro, on a des principes, en fait. Ça devrait être établi dans une zone où la loi est claire par rapport à la protection des données. Chris Dispen, oui, mais maintenant, si vous deviez donner une réponse, ce serait où maintenant? Parce que ça n'a pas d'impact sur le monde GTLD. Nous ne savons pas quel va être le régime. Chris au micro. Dans la salle, oui, mais si ça a un impact au Canada, de par les problèmes juridiques que cela pose, à qui dois-je à nouveau m'adresser ? Chris au micro. Oui, donc la question est de savoir où placer le RDS. Mais la question que je pose à nouveau est où se trouve votre opérateur de registre, votre titulaire de nom de domaine et votre registre ? Fabricio, oui, ce qu'on essaie de faire, c'est de créer des règles. Donc, je comprends ce que vous dites par rapport à l'emplacement du RDS. Mais sachant que ce que l'on essaie de traiter, c'est non pas où se trouvent les données, mais que concernent ces données. Donc, s'il y a des lois en la matière par rapport à la confidentialité et la protection des données dans votre juridiction, alors c'est ça qui s'applique. La personne dans la salle parle sans micro. Dans le contexte américain, ce serait différent, dit la personne dans la salle sans micro. Fabricio, micro. Oui, mais vous en revenez aux fournisseurs de services et au fait de ne pas respecter les règles. Stéphanie Perrin au micro. Oui, pour revenir à la complexité de ces règles, si vous êtes belge et vous allez à New York, vous avez encore droit à des droits en termes de protection des données. Il est extrêmement difficile de définir où se trouve votre registre et opérateur de registre. Donc, il faudrait harmoniser tout cela. Et il faudrait que ça soit reflété et essayer de ne pas disperser tout cela parce que ce serait vraiment un cauchemar. Chris au micro. Que feriez-vous si, disons, en Irlande? Non, pas en Irlande, pas en Irlande, dit Stéphanie. Quel est votre problème par rapport à l'Irlande? Bon, mettons le Canada. Donc la question qui se pose, y a-t-il des juridictions qui ne sont pas disposées à accepter ce niveau de protection ou des juridictions qui acceptent un plus haut niveau de protection? Donc la clé pour le processus de développement des politiques, c'est fixer le seuil minimum. Carlton au micro. Oui, on a des principes par rapport à la collecte et à la divulgation. Mais maintenant, il s'agit de la gestion des données. Vous pouvez avoir un moteur qui, en fonction du sujet des données et du droit afférent aux données, prend ses décisions. Ou vous pouvez avoir des moteurs qui fixent un seuil en fonction de la politique qui découle de ces principes. Merci. La ligne, on va fermer maintenant la ligne des intervenants. Vous êtes sur une ligne virtuelle, dans la queue virtuelle. Chris au micro. Oui, oui, Cathy est dans la queue. Joe Waldron au micro. Merci. Merci de tous les efforts qui ont été fournis pour ce rapport. Je comprends la complexité de ce travail pour essayer de traiter des questions extrêmement complexes. J'aimerais approfondir un petit peu le point de vue des titulaires de nom de domaine. On en a déjà peu parlé, mais ma question, et j'en ai plusieurs, ayant vu les coûts que cela représente pour un titulaire d'un nom de domaine. Je sais que certains proposent de faire la validation gratuitement, mais on sait à quoi ça nous mène. Donc, quel serait le coût d'avoir un clearinghouse pour les marques déposées et des bases de données bien établies pour les marques déposées? Donc, je suis un petit peu préoccupée parce que vous ne validez pas simplement une marque déposée, mais toutes les informations de contact, tous les champs obligatoires et facultatifs. Donc, je vois quel est le coût. Je comprends qu'il s'agit d'un exercice qui couvre tout l'écosystème, mais il semblerait que ce coût sera directement assumé par les titulaires de registres. Il faut le prendre en considération. Si vous regardez l'impact d'un déséquilibre. Chris, tu as parlé des CCTLD qui ne vont pas être affectés par cela. Donc, en cas de déséquilibre en termes de coûts pour les GTLD, et alors les GTLD vont être désavantagés par rapport aux CCTLD. Ça, c'est un aspect qu'il faut prendre en considération. Donc, je vous pose la question. Et je pense qu'il est important de l'analyser du point de vue des titulaires de noms de domaine en termes de complexité et de coût. J'aimerais savoir si vous vous êtes penché sur cette question. Et autre question que je voulais poser dans le rapport, par rapport à la composante RDS, qui a été estimée aux alentours de 30 millions de dollars sur une période de 5 ans. Donc là encore, c'est un coût qui va être ajouté très probablement aux frais que paient les titulaires de noms de domaine. Donc les coûts d'administration de l'infrastructure, le système RDS, etc. Je continue de croire que ça va représenter un coût significatif, celui de la validation. Donc, j'aimerais connaître l'impact pour les titulaires de noms de domaine. Stéphanie Perrin au micro. Oui, je suis tout à fait d'accord avec les dernières choses que vous venez de dire. Beaucoup des protections de confidentialité et de protection vis-à-vis des abus dépendent de ces connexion d'audit. Oui, Carlton au micro. Je voulais répondre à la question des coûts en termes de validation. Nous en avons énormément parlé et nous avons entendu de la part de l'UPU, l'Union postale, quels étaient les coûts impliqués. Il s'est avéré qu'effectivement, il y aurait des coûts supplémentaires, mais qu'on pouvait les gérer. Et l'une des raisons pour lesquelles on a demandé une analyse de risque, c'est parce que lorsque l'on met ensemble toutes ces questions par rapport à la mise en œuvre, les coûts, etc., on devait les prendre en considération à des fins de processus de développement des politiques. Et si vous voulez que cette analyse de risque soit exécutée en parallèle ou avant cette phase de développement des politiques. Donc, oui, nous savons qu'il y a des implications en termes de coûts. Nous savons que ces implications en termes de coûts vont avoir un impact. Mais si vous êtes préoccupé par cela, alors faites une analyse de risque. Stéphanie au micro. Oui, très rapidement. Michel en a parlé avant. Chaque fois qu'il pensait qu'il allait se passer quelque chose, alors il faisait une étude et ça représente un coût. Et ça, sachez qu'à l'ICANN, il y a une équipe de conformité qui travaille là-dessus. Il y a beaucoup de coûts et de dépenses en jeu maintenant. Peut-être que cette équipe à l'ICANN peut vous aider là-dessus. Donc, ce que vous dites, c'est qu'il y aura des coûts, que ces coûts seront assumés par les titulaires de noms de domaine. Et dans le système lui-même, nous ne voulons pas que les coûts soient trop élevés. Donc, bien entendu, il y a beaucoup de choses qu'on a soulignées, mises en exergue dans le développement, telles que les frais de souscription, etc., qui, nous l'espérons, créent certains revenus. Oui, mais si vous parlez de 30 millions de dollars pour mettre en place ce RDS sur une période de temps donnée, quelles seraient les recommandations? Ce que l'ICANN est en train de collecter actuellement par rapport à ces... En fait, les coûts en dernier ressort, ce seront les titulaires de nom de domaine qui vont les assumer. Merci. Question par rapport au validateur. Oui, on voit ici par rapport à ce que font les validateurs. On a parlé de la validation. Et ce qui a retenu mon attention, c'est ce qui concerne la validation ici à la troisième étape. Donc, il s'agit d'une étape obligatoire de validation. Est-ce que ça se fonde sur l'accord RAA existant de 2013? Mais Michael Lee au micro. Je vais y répondre. En fait, nous n'avons pas laissé de côté ce qui existait dans cet accord, mais nous avons été au-delà. En fait, on a comparé ce qui existe et ce qui n'existe pas encore. Ce qu'on a fait, c'est de revenir et faire table rase de ce qui existait. Et il fallait qu'on sache ce qui était en jeu. Le contrat précédent de 2013 montre bien qu'il faut faire des modifications au contrat. Et les spécifications RUIZ font partie du contrat de base. Donc, en théorie, il serait possible d'apporter des modifications sur certains éléments sans avoir à changer les principales parties du contrat. Alors, le validateur, dit Joe, quel rôle joue-t-il? Michael Lee au micro. Non, en fait, les validations, ce sont des tiers qui peuvent les faire, des entreprises, des avocats, des opérateurs de registre. Donc, hypothétiquement, il y a un processus de certification. Et si une entité peut offrir ses services, alors il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on a dit. Oui, on parlait des coûts. Si vous allez à la page 65, ce n'est pas aussi élevé que vous pensiez. C'est 1,04 euros en moyenne. Chris au micro. Oui, Margie. Bonjour, Isabelle au micro. C'est une question par rapport au coût de comparaison entre le modèle synchronisé et fédéré. Première question par rapport au commentaire fait par une personne du Canada. Je crois comprendre que vous aviez dit qu'il peut y avoir un risque plus petit d'avoir des fuites si vous avez un modèle synchronisé. Et deuxième question, comparé au modèle fédéré, je crois que le modèle synchronisé a une couche supplémentaire pour partager ces informations avec un tiers. Ce n'est pas simplement au sein du registre GTLD où on doit partager toutes ces informations avec un tiers. Donc ça, ça peut avoir des implications juridiques. Ou est-ce que cela, ça pose des problèmes par rapport aux fuites de données et qu'en est-il des responsabilités lorsque ce genre de choses se produisent? Quelles sont vos observations par rapport à ces coûts? Oui, par rapport au modèle synchronisé dont vous parliez, par rapport à la sécurité. On parle de ce genre de pratique par rapport à ce que l'on va faire par rapport aux situations de repli. Tous les mécanismes de soutien qu'on peut mettre en place dans ce genre de situation.
Eh bien oui, vous posez une question. Oui, une question supplémentaire, oui, sur la couche supplémentaire sur les données personnelles avec une partie tierce. Oui, avec le modèle agrégé. Oui, le modèle fédéré, pardon. Non, vous n'avez pas à partager vos informations privées. Par exemple. Oui, attendez. Merci. Oui, ça dépend comment vous définissez en effet cet aspect de partage. Je crois que vous parlez des parties tierces qui peuvent utiliser, dans le cadre des principaux, le système, l'accès aux outils de domaine. Oui, ça dépend véritablement d'une question de nomenclature. Parce que vous parlez de données désagrégées et vous parlez de partage. C'est comme ça que vous définissez le partage. Donc, combien combien de copies, combien de partage lorsque vous deviez transporter ces données d'un endroit à un autre? Et est-ce que c'est différent que de partager? Donc là, véritablement, on essaie de définir les choses. Et je crois qu'on a reçu beaucoup d'informations à ce sujet. Pour la protection des données, je ne crois pas que ça fasse de différence. Parce que tout cela rentre dans le partage au sens large. Très bien, merci. Je crois qu'on continuera le débat à l'extérieur. Oui, et revenez mercredi matin, parce qu'on pourra continuer à poser des questions de ce type. Oui, Fred Filman, je parle en tant que titulaire de domaine individuel. Donc, il y a des choses importantes, je crois, dont j'ai entendu parler. Donc, si il y a différents domaines. Certains sont protégés plus que d'autres. Et j'ai reçu d'un opérateur de registre une note me disant que cela va expirer, que mon domaine va expirer. Donc, il me semble que les titulaires, que les registraires parfois ont connu des problèmes parce qu'ils n'utilisent pas les meilleures pratiques pour le contrôle des données, pour la protection des données, et que parfois les données, leur protection et leur confidentialité sont violées, et que c'est pour cela à quel point il est important d'être protégé par un système de services d'enregistrement de fiduciaire. Il y a l'utilisation des données ici qui est essentielle. Donc, je ne peux pas toujours obtenir un soutien technique pour protéger mes données. Donc, mes données me semblent très disponibles et le système actuellement ne fonctionne pas en tant que titulaire d'un nom de domaine. Certains ont mentionné des personnes qui vendent les données. Il y a dans la salle des personnes qui vendent nos données personnelles. Je peux vous dire aujourd'hui que cela ne fonctionne pas et que les données privées sont divulguées d'une manière intentionnelle ou non à grande échelle. Je crois comprendre votre système en tant que titulaire de nom de domaine. Je crois que ça va restreindre un petit peu la manière dont on a accès aux données. Je crois que le système actuel n'est pas bon pour les titulaires de noms de domaine. Moi, je crois qu'on a un système, justement, on a besoin d'un système avec des portes, avec un système de divulgation, avec un système d'audit. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Le WHOIS n'est pas solide à ce niveau. Et mon expérience personnelle est que les meilleures pratiques ne sont pas utilisées et que notre expérience en tant que titulaire de nom de domaine est que nos données sont divulguées sans qu'on en soit informé et qu'on y a beaucoup de problèmes à ce niveau. Voilà ce que je voulais dire. Et je mets au défi les personnes qui sont derrière moi à penser en tant que titulaire de nom de domaine. Et je crois qu'il faut qu'on trouve des solutions. Je vous remercie. Oui, Matt Asciani, nous avons une question à distance qui est posée de John McCormick. John pose la question suivante. Est-ce que le système est assez solide s'il y a quelqu'un de malfaisant qui essaye d'accéder justement à ces données? Une réponse brève. Personne disant plusieurs entreprises pour essayer d'avoir accès aux données. Oui, l'exemple qu'on utilise tout le temps, c'est que si en effet vous prenez un système, eh bien le système va noter si en effet quelqu'un s'enregistre d'une manière frauduleuse. Ça arrive même aujourd'hui. On utilise un WHOIS plus solide dans mon entreprise juridique et il est arrivé que on était 5 à faire des recherches. Et il fallait les appeler en disant « c'est nous, nous faisons de la recherche ». Et ils remarquaient qu'on faisait une recherche. Et ça, c'était en 2001. Donc, on est en 2014. Je crois qu'il y a un système qui pourrait véritablement enregistrer ces variances et limiter en effet l'utilisation frauduleuse en utilisant plusieurs voies d'accès. Oui. Donc, ce n'est pas un complot. Je plaisantais, bien entendu, dit Michele. Cathy Kleiman. Oui. Est-ce que l'on pourrait revenir sur le transparent? Oui, je sais que c'est une séance très longue, donc je crois que nous sommes tous fatigués. Et oui, oui, c'est rien par rapport au travail qu'on a dû effectuer. Donc vous savez qu'on va devoir s'arrêter dans quelques minutes puisqu'on se retrouvera mercredi. Donc, une observation, une question. Est-ce que l'on ne repart pas un petit peu en arrière? Parce que les données sont définies par l'utilisation des données. Moi, je pense à ma carte de crédit, les informations sur ma santé. Ça, c'est collecté pour des objectifs précis. Est-ce que l'on peut véritablement définir qu'on utilise cela pour raisons financières ou pour raisons sanitaires, selon que l'on ait des données sur nos vies financières ou sur notre santé. Je crois qu'on viendra là-dessus mercredi. Mais je crois que vos principes limitent un petit peu le cadre de référence que l'on avait. Le premier principe, c'est l'utilisation personnel de l'Internet. Ce que je crois comprendre, c'est que une personne peut essayer d'identifier une entreprise avec laquelle on travaille, ou tout titulaire dans le domaine. Peut-être qu'on n'aime pas ce que l'on n'apprécie pas cette entreprise ou ses points de vue. Là, ils vont obtenir une adresse, un numéro de téléphone. Donc là, si on n'est pas d'accord avec eux, eh bien, attendez un instant, s'il vous plaît. D'accord. Oui, je n'essayais pas de vous arrêter, mais est-ce que quelqu'un pourrait répondre à cette question? Oui, j'ai essayé de comprendre ce que vous dites, dit Michele Nylon. Oui, est-ce que... Non, ce n'est pas possible, donc... Donc, l'utilisation individuelle de l'Internet. Donc, c'est les questions de transparence du DNS. Obtenir des informations de base sur un nom de domaine. Et dans ce cas, trouver un contact commercial, trouver des informations de base. Ce sont des données publiques déjà. Donc, sur l'écran, on voit des bulles. Il n'y a pas un accès derrière les portes, non. Le RDS a des objectifs de permission pour l'accès aux données. Donc, je ne sais plus exactement les termes qui sont utilisés. Ça ne dit pas pourquoi exactement cela est fait. Ça dit adresse, oui, ça dit que c'est pour obtenir une adresse. Donc, les critères, et on va revenir à la mise en œuvre, c'est la grande question. Il faut donner des définitions, en effet, de cela. Il faut qu'on choisisse d'un côté ou d'un autre, et ce sont des questions difficiles, je le reconnais. Donc, la manière dont Suzanne Karaguchi définirait cela, eh bien, c'est un site web où on offre des services, où l'on prend une carte de crédit. Et là, j'ai un droit à savoir avec qui, à qui j'ai affaire et avec qui je travaille. Et là, il y aura des informations, le nom du titulaire, le nom de domaine, et ainsi de suite. Et cela, à ce moment-là, on déclare qui l'on est et on sait avec qui on a affaire, à qui on a affaire. Je crois qu'on recherche un autre transparent à ce sujet. Oui. Je crois que c'est transparent numéro 40. Oui, Cathy. Donc ça, ce sont pour les buts et objectifs. Oui. L'utilisation individuelle de l'Internet. Oui. Donc, mais à la page 27, il y a une contradiction, parce qu'il y a l'adresse postale légale qui est indiquée, et je crois que cela entre en contradiction, donc c'est pas cohérent. Il y a un manque de cohérence, parce que c'est une question de liberté d'expression, c'est une question dont je vous parlais. Jean-François, vous voulez intervenir ? Oui, tout d'abord, très sincèrement, merci de 3h15 qu'on a passé à parler et à débattre de ce système. Gardez à l'esprit que si vous avez toujours des questions, et je suis sûr que vous allez avoir d'autres questions parce que la nuit porte conseil, vous allez trouver d'autres questions et nous aurons pour ce faire une séance de 8h à 10h du matin. Et donc, deux heures équivalentes à celles d'aujourd'hui, avec beaucoup de questions difficiles. Et J'espère également que nous aurons la possibilité de réfléchir à tous ces nouveaux systèmes et que vous aurez des réponses à toutes vos questions. Parce que j'ai compris aujourd'hui, c'est que les questions étaient très bonnes, de très haut niveau, très légitimes. Mais il me semble également que on a bien répondu à vos questions et j'espère que vous avez trouvé des réponses. Nous avons accéléré notre travail entre Singapour et aujourd'hui. C'est beaucoup plus dense. On arrive à un rapport beaucoup plus mûr, beaucoup plus en profondeur. Et il me semble que nous avons accéléré donc à la fois notre travail et donc on vous demande de réagir beaucoup plus vite. Je comprends, Cathy, ce que vous nous avez dit. À ce que vous avez vu autrefois, ce n'est plus la même chose entre ce dont vous entendiez parler lorsque vous lisez le rapport final. Il faut digérer tout cela. C'est absolument nécessaire. On peut choisir un ou deux thèmes. Il y a parfois un ensemble très clair. Je crois que l'on peut trouver beaucoup de différents chapitres, différents thèmes dans notre rapport qui est très touffu. Je l'ai mentionné auparavant. Il y aura des addendums, des points supplémentaires qui seront à rajouter au rapport sur l'Internet parce que c'est un rapport en constante évolution et c'est ce que nous allons effectuer. Mais néanmoins, c'est les questions finales. C'est à vous de décider si le modèle que nous vous proposons est une meilleure solution que ce qui existe actuellement, ce que le système WHOIS, et nous espérons vraiment que maintenant vous êtes mieux équipés pour répondre à cette question en lisant, analysant et revenant sur ce rapport. J'espère que vous serez donc satisfait de cela et nous nous retrouverons mercredi matin pour continuer le dialogue et le débat. Merci beaucoup.